Le retour de l'enseigne par A.E.W. Mason. Il était 11 heures du soir à Tanger, quand le chirurgien Wiley, du vaisseau de Sa Majesté Bonetta, quitta l'hôpital et, descendant l'étroite rue caillouteuse, se rendit à la grande garde près du port Catherine. Dans la salle du haut, le major Shackleton, de l'infanterie de Tanger, jouait la bassette avec le lieutenant Scrope, du régiment de Trelawney, et le jeune capitaine Tessin, du bataillon du roi. Il y avait là trois autres de leurs camarades, et le chirurgien Wiley se mit à leur parler médecine. Au-dessus d'eux, le ciel somptueux du Maroc resplendissait d'étoiles, la flotte de l'amiral Herbert illuminait de ses feux toute la baie. Au-dessous montait la confuse rumeur d'une ville inquiète. On était à la nuit du 13 mai 1680. Depuis 4 ans, les morts assiégeaient Tanger. Le sort des chrétiens de la ville pouvait se jouer d'un instant à l'autre. La redoute Henriette avait succombé le jour même. Demain, le petit fort de Devil's Drop, proche de la mer, tomberait à son tour. Un même danger menaçait le fort Charles. Dès l'aube, une sortie devait avoir lieu pour le secourir, et les deux officiers, sur le balcon, discutaient les chances du succès. Cependant, à l'intérieur de la salle, le chirurgien Wiley faisait une conférence à son dernier auditeur. Une commotion au cerveau, disait-il, associée du bizarre qu'elle peut avoir aboli, chez celui qui en a été victime, la conscience d'une partie du temps qui suivit l'accident. Par exemple, un homme descend une rue de Tanger. 4, 5, 6 heures après, il monte à cheval et tombe sur la tête. Quand il revient à lui, la dernière chose qu'il se rappelle, c'est quoi? Peut-être une enseigne au-dessus d'une boutique dans la rue qu'il descendait. Les heures d'après, jusqu'à la guérison, ont cessé d'exister pour lui. Il y a dans ses souvenirs une brèche. Il ne saura plus jamais ce qu'il a oublié. À moins qu'on ne le lui dise. La rectification venait du lieutenant Scrope assis à la table de jeu. Le chirurgien rapprocha son siège. À moins, en effet, qu'on ne le lui dise. Nouveau venu à Tanger, Wiley avait déjà eu le temps de découvrir chez Scrope un sujet de vif intérêt. Scrope était plus près de 30 ans que de 20. Il avait la peau brune, un visage aquilin, et rachetait par la souplesse du corps un léger défaut de taille. Il intéressait Wiley en ce qu'il semblait un de ces êtres chez qui de fortes passions et une forte volonté se livrent continuellement et désespérément la guerre. Un détail intriguait Wiley. C'était le grade subalterne de Scrope dans une garnison où la mort rendait les promotions si rapides. À cette table, où il le voyait assis, le lieutenant avait pour vis-à-vis un enfant de 24 ans, Tessin, déjà son supérieur et capitaine. Ce fut à l'adresse du lieutenant que Wiley reprit son discours. La longueur du temps aboli est proportionnelle à la gravité de la commotion. Elle peut n'être que d'une heure ou d'un jour. Il se renversa sur sa chaise et sourit. Étrange aventure que d'avoir à se demander « Qu'ai-je fait pendant tant d'heures ?» Question presque effrayante. Scrope choisit une carte, la battit et sans lever les yeux demanda. Effrayante, pourquoi ? Parce que le plus honnête peut, en quelques heures, commettre un crime, damnable, s'exposer au pire déshonneur. Scrope dévisagea tranquillement le chirurgien. Il cherchait l'intention sous les paroles. À ce moment, le caporal du port Catherine frappa, entra, vint parler au major. Les deux officiers passés sur le balcon rentraient dans la salle. Le troisième, qui dormait adossé au mur, s'éveilla. Il ressortait du récit du caporal qu'un factionnaire de garde à la palissade, devant le port Catherine, avait remarqué tout d'un coup une masse blanche qui remuait quelques yards sur le sol. L'ayant surveillé, il l'avait vu se rapprocher. À son cri de « qui vive ?» avait répondu des paroles de prière, murmurées en anglais par une voix anglaise. Alors il avait demandé le mot d'ordre. « Inchikin !» avait dit la voix. « C'est le dernier dont j'ai eu connaissance. Laissez-moi entrer. » La sentinelle avait appelé le caporal. Le caporal avait emmené le mystérieux transfuge qui pour l'instant était en bas au poste. « Cet homme, dit le major, peut nous apporter d'utiles renseignements pour demain matin. Qu'il monte. » Et comme le caporal se retirait, « Inchikin ?» répéta le major pensif. « Je ne me rappelle pas ce mot d'ordre. » Wiley, cependant, avait observé qu'à la seconde où le caporal prononçait le mot « Scrope », qui regardait ses cartes, en avait lâché une, et dressant la tête, fronçant les sourcils, il avait arrêté ses yeux devant lui sur le mur. Il dit à Scrope, « Vous vous le rappelez, vous ?»« Oui, » répliqua Scrope. « Je me le rappelle, et j'ai pour cela de bonnes raisons. Inchikin et Trevio, c'était les mots d'ordre et de ralliement le 6 janvier d'il y a 2 ans, dans la nuit qui vit s'accomplir mon désastre. Il se fit un malaise. Des regards s'échangèrent. Ah, bien, bien, dit le major Shackleton. Soudain, le poing du capitaine Tessin s'abattit sur la table. Le 6 janvier, il y a 2 ans, mais... Il se penchait vers Scrope. C'est ce jour-là, n'est-ce pas, que Knightley tomba dans la sortie et l'on ne retrouva jamais son corps. Or, d'après le caporal, le fugitif serait un Anglais. Que diriez-vous si... Le major Shackleton hocha la tête. Knightley tomba à mon côté. Le coup qu'il frappait dut lui fracturer le crâne. La porte s'ouvrit. Le fugitif apparut sous le seuil. Instantanément, les visages convergèrent vers lui pour s'en détourner aussitôt d'un air désappointé. Wiley nota toutefois que Scrope se leva, mais sans quitter la table ni sa place. L'homme était grand. Une barbe toute blanche de poussière s'éparpillait au long de ses joues brûlées et caves. Ses yeux bleus luisaient de fièvre au creux des orbites. L'homme s'appuya au chambranle de la porte. Vivement, Tessin se leva et traversa la pièce à demi. L'homme fit un pas mal assuré. Ses jambes tintèrent. Wiley s'aperçut que des tronçons de fer s'enroulaient à ses chevilles. « 2 ans m'ont-ils changé à ce point ?» demanda l'inconnu. « Oui, c'est vrai. 2 ans de bastonnade. Je ne m'étonne pas. » Tessin scrutait le visage. « Eh, pardieu ! » proclama-t-il. « C'est Knightley !»« Merci !» dit Knightley avec un sourire. Et Tessin déjà s'avançait, les mains tendues. Mais il s'arrêta net, regarda du côté de Scrope et recula. « Knightley !» s'écria le major d'une voix de bienvenue. Il se dressa. Il dirigea lui aussi vers Scrope un regard qui semblait attendre. Puis il se rassit. Scrope ne fit pas un mouvement. Les yeux rivés à la table, il s'abîmait dans ses pensées. Wiley sentit qu'évidemment Tessin et Shackleton obéissaient l'un et l'autre à l'instinct qu'on a quand une lutte se prépare entre 2 hommes. Il laissait le champ libre aux adversaires. Non moins évidemment, Knightley s'en avisait, sans comprendre, car ses yeux allaient anxieusement de l'un à l'autre. « Oui, » dit-il timidement, « je suis Knightley. » Puis, se campant de toute sa hauteur, « Enseigne Knightley, régiment d'infanterie de Tanger, » lança-t-il. Personne ne lui répondit, et lentement, d'une voix dure et posée, Knightley continua. « Gentlemen, je crois que 2 ans n'aient changé tout un monde. D'un homme qui avait votre bienveillance, il me semble avoir fait à l'étranger un important. » Sa voix se cassa dans un sanglot. Il se tourna vers la porte, chancela, se retint un siège. Immédiatement, le major Shackleton fut à son côté. « Et quoi, mon garçon, aurions-nous manqué d'empressement ? Ne l'attribuez qu'à notre surprise. » « En attendant, dit Wiley, l'ancien Knightley meurt de faim. » Le major se hâta de faire asseoir Knightley, appela l'ordonnance, l'envoya chercher de quoi manger. Avec la bouteille de vin posée sur la table, Wiley remplit un verre de vin et le tendit à l'enseigne. La cordialité du major l'avait remonté comme un tonique. Il porta le verre à ses lèvres et but. Comme il renversait la tête, ses yeux rencontrèrent Scrope. Le lieutenant semblait une statue, mais un halètement profond gonflait et creusait tour à tour sa poitrine. Knightley reposa son verre à demi plein. « Il y a ici quelque chose qui ne va pas, » dit-il, « car le capitaine Scrope lui-même a oublié son vieux camarade. « Capitaine ?» s'exclama Wiley. Ainsi, le lieutenant Scrope avait été le capitaine Scrope. Scrope avait donc perdu son grade. Comment ? Mais l'attention de Wiley n'eut pas le loisir de s'attarder à ses problèmes. Scrope, sans relever l'observation de Knightley, s'était mis à tambouriner doucement sur la table. Ses battements, d'abord confus, semblèrent peu à peu se soumettre à un rythme, tout à fait inconsciemment. Scrope battait un air très déterminé, dont Wiley n'arrivait pourtant pas à se faire une idée précise. Un instant, Knightley considéra tour à tour Scrope et l'assistance, puis « Harry, » dit-il, « Harry Scrope !» Il tendait les mains vers le lieutenant et ses fers sonnèrent sur le bois de la table. Mais Scrope se tourna vers l'enseigne et dans un état brusque « Inutile d'agiter vos fers devant moi » gronda-t-il. « Croyez-vous donc que personne que vous n'ait porté la chaîne ? Moi aussi j'ai des stigmates à montrer et qui valent les vôtres. » Il avançait jusque dans la figure de Knightley la paume de sa main gauche. « Marqué au fer rouge, voyez-vous, marqué au fer rouge. Et voici mieux encore. » Un pied sur sa chaise, il descendit son bas au long de sa jambe. Juste au-dessus de la cheville, la morsure d'un anneau avait laissé une cicatrice. « J'ai traîné la chaîne, vous voyez. Non pas comme chez vous, chez les morts, mais ici même à Tanger, sur ce moelle d'année, devant mes camarades. Par le Seigneur, je vous le dis, Knightley, c'est vous qui de nous deux avez eu la meilleure part. »« Vous ? s'écria Knightley, vous avez traîné la chaîne sur le môle de Tanger. Pour quelle faute ? Et il ajouta tendrement sincère. Rien de désolant, j'en suis sûr. Le major Shackleton eut peine à renfoncer dans une toux l'exclamation qui lui montait à la gorge. Scrope se pencha par-dessus la table. Ma faute, ce fut un duel qui eut lieu dans la nuit du 6 janvier, il y a 2 ans. Le visage de Knightley s'assombrit. La nuit où je fus fait prisonnier, dit-il avec embarras. Les officiers rapprochés de la table semblaient retenir leur respiration. Avec qui vous êtes-vous battu ? Demanda Knightley. Avec un de mes bons amis, répliqua Scrope d'une voix égale et dure. À quel propos ? À propos d'une femme. Knightley eut le rire triomphant. Je le disais bien, Harry, qu'en toute cette affaire, il ne pouvait y avoir eu pour vous de déshonneur. Un flux de sang empourpra le visage de Scrope, les veines de son front se tendirent, le major s'interposa. À quoi bon remuer tout cela ? Scrope, désormais, a payé sa faute. Il a repris sa place dans nos rangs et, par sa bravoure, conquis le brevet de lieutenant sur le champ de bataille. Il peut, demain, redevenir capitaine. En tout cas, il porte l'uniforme du roi. C'est un privilège qui nous égalise tous dans l'estime commune. Scrope salua le major et s'éloigna. Ses camarades bougèrent, comme soulagés d'une angoisse. Et les mots de Shackleton changèrent le cours des pensées de Knightley, car prenant du bout des doigts sa robe de mort. « Moi aussi, » fit-il avec tristesse, « je portais l'uniforme du roi. »« Eh Dieu merci !» répondit cordialement le major. « Vous le porterez encore ?» Knightley, radieux, bondit de son siège. « Vrai ?» demanda-t-il passionnément. « Alors que ce soit aujourd'hui même, tout de suite. » Le major continua. « À propos, Knightley, il y a un détail que j'aurais dû vous demander avant tout autre. Par où êtes-vous venu ?»« Par Teviot Hill, de l'autre côté du fort Henriette. »« De l'autre côté du fort Henriette ?»« Alors vous pouvez nous être utile, car c'est par là que nous faisons notre sortie. »« Pour secourir le fort Charles ?»« Vous y aurez de la peine. Les morts sont retranchés dans l'intervalle. Il y a 3 lignes de tranchées. » Jamais je ne me serais faufilé entre elles si je n'avais dépouillé de sa robe le cadavre d'un mort. 3 lignes de tranchées. Oui, 3. La 3e, profonde de 12 pieds au moins, large avec des parois piques détrempées par la pluie et glissantes. Une tombe alors, dit négligemment Scrope. Une tombe qui sera bien garnie avant la fin du jour. Diable soit de vos réflexions, Scrope, gourmanda le major. D'ici à la fin du jour, nous offrirons aux morts un divertissement dont quelques-uns se tiendront satisfaits pour l'éternité. Nous ne sommes pas faits de compote. Tessin, occupez-vous de Knightley. » Les 2 hommes se retirèrent. Le major Shackleton griffonna un billet dans lequel il communiquait au lieutenant-gouverneur, Sir Palms Fairborn, les nouvelles que lui avait apportées l'enseigne. Cependant, Scrope fit un tour ou deux dans la salle, puis « Quel jeu est-il en train de jouer ? » dit-il en indiquant d'un signe de tête la porte que Knightley venait de franchir. « Joue-t-il vraiment un jeu ? » demanda Wiley. Scrope le considéra une seconde et répliqua. « Vous êtes un nouveau venu à Tanger, sans quoi vous n'auriez pas posé la question. »« Je l'aurais posé, Wiley, car à défaut de plus, je sais une chose. Je sais qu'il y a un grave désaccord entre l'enseigne Knightley et le lieutenant Scrope. Je sais en outre qu'il y a quelqu'un ici qui en sait moins que moi là-dessus. Je veux dire l'enseigne Knightley, car si je sais qu'il y a un désaccord entre lui et vous, lui-même l'ignore. »« Il l'ignore ?» s'écria Scrope. « Eh bien, mon cher... » Celui avec qui je me rencontrais en duel, c'était Knightley. La femme qui motivait la rencontre, c'était sa femme, soit dit pour votre gouverne. Et Scrope se remit à arpenter la salle. Vous ne m'étonnez pas le moins du monde, repartit Wiley, souriant. Mais vous m'intéressez, je l'avoue. Une femme donne toujours du piment à une histoire. Est-ce que vous voudriez répondre à une question ? J'en doute. Cette réplique n'altéra pas la sérénité du chirurgien. Je me suis mal exprimé. Voulez-vous confirmer une assertion. L'enseigne Knightley n'avait, n'est-ce pas, aucun soupçon avant d'avoir découvert la triste vérité. Scrope revint vers la table. Très exact, bougonna-t-il. Knightley n'avait aucun soupçon et cela méritait. Wiley eut comme pour lui-même un petit rire. Donc, le soir du 6 février, l'enseigne Knightley découvre la triste vérité. À quelle heure ? Scrope regarda le major. Vers minuit, indiqua-t-il. « Un peu plus tard, je crois, » rectifia Shackleton. « Un peu après minuit, » répéta Wiley. Séance tenante, l'enseigne Knightley et le lieutenant Scrope eurent, à ce que je viens d'apprendre, un duel qui apparemment se termina sans blessure. Scrope et le major s'inclinèrent. « Au matin, » continua Wiley, « l'enseigne Knightley prit part à une escarmouche et reçut un coup de crosse si violent que le major Shackleton lui crut la tête brisée. « À quelle heure ?»«
Entre 7 et 8 heures, » répliqua le major.
« Parfait, » dit Wiley. 2 ans plus tard, l'enseigne Knightley revient. Il ne sait rien ni de ce duel ni de ses causes. Le lieutenant Scrope reste pour lui Harry et le meilleur de ses camarades. Tout cela est très clair. Je vous ai parlé des suites que peut avoir une commotion cérébrale. Je n'aurais pas souhaité une meilleure démonstration.
Alors Knightley ne sait rien,
clama le capitaine Tessin, très excité, les lèvres sifflantes. Et ne saura jamais rien, compléta le major qui bondit.
À moins qu'on ne le lui dise,
corrigea vivement Scrope. Ce sont vos propres termes, Mr. Wiley.
Or, comment vous y prendrez-vous, major, pour forcer Tanger au silence?
Que Knightley descende demain jusqu'à la porte marine, il n'aura pas eu le temps d'y arriver qu'il aura 100 fois entendu l'histoire sur laquelle on aura brodé 100 fois.
À ce compte, mieux vaudrait qu'il apprît la vérité toute crue de ma bouche.
De votre bouche, se récria Tessin.
Un autre duel, alors.
En avez-vous calculé le prix?
Mais oui, répliqua le lieutenant, imperturbable.
2 années de bastonnade, fit le major.
Vous l'avez entendu, il vous l'a dit lui-même. Et il revient ici pour y trouver.
Quoi?
Peut-être une pire torture. Scrope, j'aurais bonne envie de devenir moraliste et de vous maudire.
Major, dit froidement Scrope, je crois que votre pitié s'égare. Je n'accepte pas les conclusions de M. Wiley. Knightley sait à quoi s'en tenir sur ce qui nous occupe. Observez qu'il n'a fait aucune mention de sa femme. Après 2 ans d'esclavage, il s'évade et ne demande aucune nouvelle de sa femme. Un pareil silence chez lui est bien extraordinaire. Il a sans doute ses raisons pour se taire, mais il sait.
Tessin regarda Wiley.
Qu'est-ce que vous en dites?
Simplement, répliqua Wiley, ce que je disais avant l'apparition de Knightley.
Un homme a perdu la notion de plusieurs heures. Son ignorance de ce qu'il fit pendant ces heures a de quoi l'effrayer. Le lieutenant Scrope en doutait et réclamait un exemple. Le voici. La simplicité de poser une question terrifie Knightley. Et la raison en est, je crois, qu'il redoute d'apprendre comment il a pu vivre durant ces heures abolies. Il y eut une pause, et Wiley reprit. Les souvenirs de Knightley s'arrêtent net à un certain moment avant la rencontre. À quel moment précis? Mystère. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Knightley ignore sa querelle avec le lieutenant Scrope, et il importe au plus haut point de voir si l'on ne peut empêcher qu'il ne la connaisse. N'y aurait-il pas moyen de le renvoyer en Angleterre?
Mrs. Knightley, je suppose, n'est plus à Tanger.
Le major Shackleton se leva et, prenant Wiley par le bras, l'entraîna vers le balcon. À leurs pieds, la ville dormait. Les rues s'allongeaient, silencieuses. Seules veillaient quelques lumières, çà et là. Ce fut vers l'une de ces lumières que le major dirigeait l'attention de Wiley. La maison où elle brillait était proche. La lumière éclairait une fenêtre du patio. « Vous voyez cette maison ?» dit le major.
« Oui, » dit Wiley. « Scrope y habite. »
Je l'y ai souvent aperçu entrant ou sortant. Possible, mais c'est la maison de Knightley.
De Knightley?
Alors la lumière qui brillait à cette fenêtre? Mrs. Knightley est encore à Tanger. Et je parierais contre une guinée tout mon arriéré de solde, que pas une fois en 2 ans, le souci de son mari n'a seulement mis à son joli front l'ombre d'une ride.
Penché sur le balcon, Wiley observait la lumière.
Un changement s'opérait dans ses sentiments et ses idées. L'intérêt qu'il avait porté à Scrope se dissipait, ou plutôt se reportait sur Knightley. En même temps naissait chez lui une nouvelle sympathie, une pitié nouvelle, et cela uniquement à cause de cette lumière jaune éclairant cette fenêtre. Ainsi avait-elle brûlé toutes les nuits pendant 2 ans, et Scrope était entré et sorti à sa guise. Cependant, au fond du Maroc barbare, le mari recevait sa ration quotidienne de bâtons et de fouets, et la femme, principe de ce malheur, en profitait. Wiley songea qu'une souveraine ironie présidait à la conduite du monde.
« Vous avez raison, major, » dit-il.
« Cette lumière-là ferait de tout homme un moraliste, et l'enverrait prêcher sur les places publiques. »«
Oui, »
répondit le major. « Mais vous le savez, Tanger n'est qu'un misérable avant-poste aux confins de l'univers. Nous y mourrons de faim derrière des murailles croulantes. Nos amis nous oublient. Le mort assiège continuellement nos portes. Toute élégance devient un luxe. Nous n'avons que peu de temps à vivre. À la fin, les passions font de nous ce qu'elles veulent, et l'honneur en vient à ne plus signifier autre chose que le courage et une belle mort. » Il se tut un moment, puis, sans transition, il dit à Wiley le reste de l'histoire.
L'arrivée de Knightley à Tanger ne date que de 3 ans. Jamais il n'aurait dû amener sa femme. Knightley se lia d'amitié avec Scrope. Scrope se lia d'amitié avec la femme de Knightley. On s'en avisa très vite et la confiance de Knightley fit la risée de la ville. Je me rappelle très bien la nuit du 6 janvier. J'étais capitaine et commandais la garde. Un espion nous annonça l'imminence d'une attaque. J'envoyai Knightley porter les nouvelles à Lord Inchiquin. En revenant, il entra chez lui. L'heure était avancée. Mrs. Knightley chantait à Scrope une folle chanson. Les deux hommes descendirent dans la rue et se battirent sur place. Le quartier s'émut. On arrêta les combattants. Il y a deux fautes que les circonstances nous obligent à punir plus qu'elles ne le méritent. Le duel, parce que nous n'avons pas d'officier à sacrifier en pure perte, et les querelles de nuit dans la rue, parce que les morts, aux aguets sous nos murs, n'attendent qu'une occasion à saisir. Vous savez la punition infligée à Scrope. Quant à Knightley, je le laisse en liberté pour la nuit. Il était de garde et je ne pouvais me priver de ses services. Attaqués au point du jour, nous repoussâmes l'attaque, puis nous fîmes une sortie dans laquelle Knightley tomba. À ce moment, les deux officiers, entendant la voix de Knightley derrière eux, se retournèrent. L'enseigne avait coupé sa barre d'inculte, ses cheveux clairs, bien peignés, bouclés avec grâce sur sa tête. Ses traits, en dépit des ravages, avaient une expression presque enfantine. Chacun de ses mouvements révélait sa jeunesse. Et il salua le major. Avec son uniforme, il semblait avoir un peu repris son assurance de soldat. « Mon garçon, » dit Shackleton, désignant quelques pauvres harengs et un croûton de pain que l'ordonnance avait posé sur la table, « voici votre souper. C'est maigre. » « Tant mieux, » dit Knightley en riant. « Cela me prouve que je suis bien revenu à Tanger. Vous n'avez pas de bœuf, je suppose. Pas un sabot. Ni de beurre. Pas de quoi couvrir une pièce de 6 pence. Mais vous avez du fromage. » Et il piqua un morceau du bout de sa fourchette. « Qu'importe, » reprit-il. « Je me retrouve à Tanger. Je ne m'inquiète pas du reste. Rien n'est changé. » Il s'arrêta soudain. « Rien n'est changé ?» Cette fois, la phrase devenait une question hésitante, où l'on sentait le retour d'une crainte. Personne ne lui répondit. « Rien n'est changé, » dit-il une troisième fois, et ses regards anxieux interrogeaient tour à tour chaque visage. Tessin tourna le dos. Shackleton promena ses yeux au plafond avec une indifférence excessive. Scrope chercha le vin et le répandit en remplissant son verre. Wiley dessinait, d'un doigt fluide, des diagrammes sur la table. Ces détails n'échappèrent point à Knightley. Il reposa sa fourchette, appuya son coude sur la table, son front sur sa main, et distraitement, il se mit à fredonner un air. Le chirurgien, d'abord, en reconnut vaguement le rythme. Puis tout d'un coup, il sursauta. C'était le même air que les doigts de Scrope avaient battu sur la table quand, pour la première fois, il avait revu Knightley. Et Knightley le fredonnait à présent de la même façon distraite dont l'avait tambouriné Scrope. Cet air avait donc à coup sûr joué un rôle dans les relations des deux officiers. Une folle chanson. Les mots du major illuminèrent comme un éclair le cerveau du chirurgien. Elle chantait une folle chanson. Cet air était-il l'air de la chanson? Mais alors? Le raisonnement de Wiley aboutit à une conclusion subite. Si cet air était l'air de la chanson, Knightley, du moment qu'il se rappelait la chanson, devait savoir la vérité. Scrope voyait-il juste en le soupçonnant de feindre? Wiley regarda l'enseigne. Knightley cherchait les paroles appropriées à l'air, et presque aussitôt les paroles arrivèrent. D'abord, une ou deux, murmurées inconsciemment, et qui s'appliquaient çà et là sur une note, puis une phrase entière qui emplissait une mesure, et finalement un couplet, suivi d'un autre. « Belle hérétique, mon amour, veut rester fidèle à lui-même. N'attends pas que je t'aime un jour, plus qu'à cette heure je ne t'aime. Si je t'aimais selon l'instant, ma sagesse en prendrait ombrage. Mieux vaut aimer toujours, autant qu'aimer quelquefois davantage, un cœur qui flotte. » Puis le chant s'arrêta court. Un silence se fit. Knightley, toujours immobile sur sa chaise, continuait d'abriter son visage derrière sa main. Soudain, Wiley tressaillit. Quelqu'un le frôlait à la manche. Il se retourna et vit Scrope se pencher sur lui, en travers de la table. « Il sait, » murmura Scrope. C'était ce chant qu'elle chantait. « Homo qui flotte. » Il ouvrit la porte de la chambre. Knightley, comme si le murmure de Scrope le rappelait à lui, passa ses mains sur ses tempes, précipitamment Scrope rassit. « Rien n'est changé, n'est-ce pas ?» demanda Knightley d'un ton d'un homme qui s'éveille. Il se leva, contourna la table à pas lents et doucement, laissa tomber une main sur l'épaule de Scrope. Scrope fit demi-tour, aussi blême que s'il reçut un coup de poignard. « Harry, » dit l'enseigne, « ma femme est-elle encore à Tanger ?» Et Scrope, dans un souffle, « Oui. »«
Elle m'attend, n'est-ce pas ? Et vous avez eu pour elle toute la bonté possible pendant mon esclavage ?»
Il parlait avec incertitude, comme on se risque en terrain douteux. Tout en parlant, il sentait Scrope frissonner sous sa main. Il voyait l'émotion de ses camarades. Il se tourna, se traîna plus qu'il ne marcha jusqu'à la fenêtre, s'arrêta, se pencha sur l'appui.
« Le jour vient, »
dit-il, très calme. Wiley leva les yeux. Le ciel, encore pourpre zénith, pâlissait sur les bords.
« Un cœur qui flotte, »
chuchota Knightley.
Et il fit irruption dans la salle.
« Dites-moi la vérité, » conjura-t-il, résolu et fixe devant ses frères d'armes rassemblés autour de la table.
« Oui, la vérité dut-elle sonner ma damnation ?»
Si vous saviez comment là-bas, à Fès, à Mekinèse, je me représentais votre accueil le jour où je reviendrai.
L'avant-goût m'en était un vrai remède.
Cependant, je reviens, et l'un de vous, et vous tous, vous écartez de moi comme si j'étais un des lépreux qu'on coudoie dans les rues de Tanger.
Un cœur qui flotte.
Il s'arrêta. Je me demande.
Il hésita. Puis, dans une explosion, je vous demande ceci.
Me suis-je conduit comme un lâche, la nuit où je fus fait prisonnier il y a 2 ans?
Wiley ne put s'empêcher de jeter vers Scrope un regard de triomphe, et ce regard semblait dire « Voici la preuve que vous demandiez. »«
Comme un lâche ?» s'écria Shackleton, stupéfait.
« Oui, me suis-je conduit comme un lâche ?»
Knightley s'assit de biais sur le rebord de la table, et d'une voix rapide, sourde, il continua.
« Un cœur qui flotte. Ce sont les derniers mots que je me rappelle. Vous m'aviez envoyé ma jour porter un message au gouverneur. Je remis le message et m'en revins. Chemin faisant, je passais devant chez moi. Je m'arrêtais dans le patio. Ma femme chantait cette chanson. La fenêtre de la chambre où elle chantait donnait sur le patio. Je restais une seconde à l'écouter, puis je montais. Je tournai la poignée de la porte. Ces mots, un cœur qui flotte, m'arrivèrent dans une bouffée par l'ouverture et la chose d'après dont j'ai conscience, c'est que j'étais à dos de chameau, chargé de fer, et qu'on m'emmenait en esclavage.
Tessin et Shackleton eurent pour Wiley un regard qui rendait témoignage à la sagacité de ses conjectures.
Scrope s'épongea le front et attendit. Mais en quoi ce défaut de mémoire peut-il vous donner à craindre que vous ne vous soyez conduit comme un lâche?
C'est, répondit Knightley, et sa voix faiblit jusqu'au murmure,
que je me suis conduit comme un lâche plus tard à Mekinèse. Dans les premiers temps, cela m'amusa de me demander ce qui avait pu arriver quand j'eus ouvert la porte avant qu'on m'eût fait prisonnier sous Tanger. Ensuite, cela me tourmenta. À la fin, cela commença à m'effrayer. Un homme trop fatigué nourrit des imaginations maladives. À Mekinèse, on m'employait à la construction du nouveau palais pour l'empereur. Nous utilisions les pierres de la vieille ville romaine et nous en faisions des murs. Et dans ces murs, pour la plus grande gloire d'Allah, on nous forçait d'enfermer vivants des esclaves chrétiens. Je refusais. On me déchira les pieds sous la bastonnade, on me priva de manger et de boire, puis l'on me ramena au mur, je refusais encore. Knightley dut prendre pour un silence d'incrédulité, une attente sans bois et sans haleine.
« Croyez-moi, » implora-t-il, « je refusais par 2 fois, et par 2 fois mes bourreaux me torturèrent.
La 3e fois j'étais si brisé, le sifflement d'un bâton dans l'air me faisait pousser un tel cri de douleur, je descendis si bas dans la lâcheté que... »
Il s'arrêta. Enfin, changeant de voix, il poursuivit.
Le chrétien était un Portugais. On le mit dans le mur, les bras en croix, et j'emprisonnais ses bras entre des pierres que je cimentais, d'abord le droit, ensuite le gauche.
Knightley répéta les mots en s'empoignant lui-même à bras-le-corps.
Wiley le sentait tendu jusqu'à la folie. Après, je m'assonnais à l'entour des pieds, à l'entour des jambes et du torse. J'arrivais au cou. Tout le temps, il implorait la pitié. Il balbutiait des prières et des blasphèmes. Quand j'atteignis le cou, il cessa de crier. L'horreur, je suppose, lui clouait la langue. Et maintenant, j'allais rencontrer ses yeux, puisque je m'assonnais autour de son visage. Je pensais à l'aveugler. Je le pouvais avec une pierre, j'en pris une et alors...
Mes yeux allèrent à ses yeux comme la scie à l'aimant. Et sitôt que j'eus vu, sitôt que j'eus entendu ses yeux, j'arrachai les pierres. Je délivrai le corps, les jambes, les pieds et l'un des bras. Je ne peux vous dire à quel moment les gardiens me remarquèrent, ni quand ils commencèrent à me battre. »
Knightley frissonna.
« Je ne peux vous le dire. Mais vous voyez que je me suis conduit comme un lâche à Mekinez. Et toutes les fois que je repensais à ce qui avait pu m'arriver, après que j'ai ouvert la porte, je me demandais si par hasard à Tanger aussi, je m'étais conduit comme un lâche. Je reviens, et vos visages se détournent. Et vous m'accueillez avec des paroles contraintes. Me suis-je conduit comme un lâche la nuit où j'étais fait prisonnier? Dites-le-moi, dites-le-moi. » Gravement, le major se leva, fit le tour de la table, et tendant sa main à l'enseigne, « Mettez-la votre main, petit, » dit-il. Knightley regarda la main tendue, puis le major. Il prit la main avec défiance, et elle étreignit la sienne. « Ni à Mekinez, ni à Tanger, vous ne vous êtes conduit comme un lâche. Je vous ai vu tomber près de moi, au premier rang de l'attaque. » Et alors Knightley se mit à pleurer. Il pleurait comme un enfant, en mêlant à ses pleurs des excuses. Il était faible et fatigué, et soulagé d'un trop grand poids, il était confus. « Vous voyez, » dit-il, « j'avais besoin de savoir. Ma femme m'attend. Je ne pouvais pas lui rapporter cette honte. C'est pourquoi j'osais à peine demander de ses nouvelles. Je puis rentrer chez moi maintenant. Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. » Il se leva, s'inclina, se dirigea vers la porte. Le major le regarda traverser la salle. Devait-il laisser sortir l'enseigne ou le retenir? Que Knightley se précipita chez sa femme, c'était la chose à prévoir, la chose naturelle. Pourtant, ni le major ni les autres ne l'avaient prévu. Les faits, dans leur succession immédiate, leur avaient accaparé l'esprit. La main de Knightley était arrivée à la porte. Il l'ouvrit, mit un pied dans le corridor. À ce moment, un coup de canon fit trembler la salle. « Ah !» dit Wiley, « le signal de la sortie !» Knightley s'arrêta, prêta l'oreille. Le major Shackleton ne quittait pas des yeux le plancher. Il lui semblait qu'une soudaine inspiration venait lui dicter sa conduite. Au coup de canon répondaient 10 coups de cloche. « Pour le bataillon du roi !» dit Knightley avec un sourire. « Oui !» dit Tessin. Et prenant son épée, il enfila sa tête dans la bandoulière. La cloche, de nouveau, se fit entendre. Cette fois, elle sonna 20 coups. « Pour le régiment de Mylord Dunbarton !» dit Knightley. « Oui !» firent deux autres officiers, et prenant leur chapeau, ils descendirent derrière Tessin. Il y eut un troisième appel de cloche, et le nombre des coups fut de 30. « Ah ! » dit Knightley, « pour l'infanterie de Tanger. Major, bonne chance !» Et il franchit la porte. « Un moment, Knightley !» dit Shackleton. « Vous rentrerez chez vous quand il en sera temps. À cette heure-ci, vous portez l'uniforme de l'enseigne Barbour. Vous devez faire plus que porter son uniforme. Le régiment avant tout. » Le major parlait d'une voix rauque, les yeux toujours rivés au plancher. « Approuvez de tout cœur, major, » dit l'enseigne. « Votre poste est la tour de Peterborough. Vous allez vous y rendre tout de suite. »« Tout de suite, » répliqua Knightley. « Ma femme me l'ordonnera elle-même. » Et il descendit dans la rue. Le major prit son chapeau. « C'est moi qui commande la sortie, » dit-il à Wiley. En se retournant, il se trouva face à face avec Scrope. Scrope demanda. « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Shackleton lança un coup d'œil à Wiley qui comprit et sortit, laissant les deux officiers en présence. Alors Shackleton planta ses yeux dans la figure de Scrope. « J'ai entendu ce soir un homme parler d'une voix d'homme. Je veux rendre à cet homme le meilleur service que je puisse lui rendre. Knightley ne sait rien. Il croit sa femme une Pénélope. Il faut qu'il garde sa croyance. Il y a une tranchée que vous avez très justement appelée une tombe. Dans cette tranchée, Knightley n'entendra aucun des méchants bruits que Tanger lui jetterait aux oreilles. Je veux lui donner une chance de mort. « Non, major, » cria Scrope, « ou bien donnez-moi une chance égale. » Le régiment de Trelawney n'est pas désigné. D'ailleurs, lieutenant, je crains qu'en cette affaire vous n'ayez la mauvaise part. » Et Shackleton, qui répétait là sincèrement le mot de Scrope, partit rejoindre son poste. Scrope resta seul dans la salle de garde, et la tranchée lui apparut. 12 pieds de fond, 8 de large. Il ferma les yeux, mais en vain. Il voyait toujours la tranchée. Pour éloigner cette image, il passa sur le balcon, et ses yeux cherchèrent d'instinct une maison près du mur de la ville, un coin du patio, une fenêtre. Un sentiment de dégoût le ramena dans la salle. Il souffla les chandelles et s'assit tout seul dans la demi-clarté de l'aube. La pièce gardait encore des coins d'ombre que cherchait la lumière envahissante. Soudain, l'air s'imprégna d'or chaud. Le soleil entrait quelque part. Scrope perçut un bruit de fusillade, qu'un grondement d'artillerie suivit à court intervalle. La bataille s'engageait. Il vit la tranchée béante. Décidément, le major disait vrai. Ce matin encore, le lieutenant Scrope avait la mauvaise part de l'affaire. C'était le retour de l'enseigne par A.E.W. Mason.